Chapitre 5. Le rapport capital-revenu dans le long terme. Nous venons d'étudier les métamorphoses du capital en Europe et en Amérique depuis le XVIIIe siècle. Sur longue période, la nature de la fortune s'est totalement transformée. Le capital terrien a été progressivement remplacé par le capital immobilier, industriel et financier. Mais le fait le plus frappant est sans doute qu'en dépit de toutes ces transformations, la valeur totale du stock de capital, mesurée en années de revenu national, rapport qui mesure l'importance globale du capital dans l'économie et la société, ne semble pas avoir véritablement changé sur très longue période. Au Royaume-Uni comme en France, pays pour lesquels nous disposons des données historiques les plus complètes, le capital national représente environ 5-6 années de revenu national au début des années 2010, soit un niveau à peine inférieur à celui observé au XVIIIe et XIXe siècle, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, environ 6-7 années de revenu national. En outre, compte tenu de la progression forte et régulière du rapport capital-revenu observé depuis les années 1950, il est naturel de se demander si cette progression va se poursuivre dans les décennies à venir et si le rapport capital-revenu va retrouver, voire dépasser, au cours du XXIe siècle, ses niveaux des siècles passés. Le second fait saillant concerne la comparaison entre l'Europe et l'Amérique. Sans surprise, les chocs de la période 1914-1945 ont touché beaucoup plus fortement et durablement le vieux continent, d'où un rapport capital-revenu plus faible en Europe pendant une bonne partie du XXe siècle, des années 1920 aux années 1980. Mais si l'on accepte cette longue période des guerres et de l'après-guerre, alors on constate que le rapport capital-revenu a toujours tendance à être plus élevé en Europe. Cela vaut aussi bien pour le 19e et le début du 20e siècle, avec un rapport capital-revenu de l'ordre de 6-7 en Europe contre 4-5 aux États-Unis, que pour la fin du 20e et le début du 21e siècle. Les patrimoines privés européens ont de nouveau dépassé les niveaux américains au début des années 1990 et ils avoisinent les 6 années de revenu national dans les années 2010, contre à peine plus de 4 années aux États-Unis. Voir graphique 5.1-5.2. Il nous faut maintenant expliquer ces faits. Pourquoi le rapport capital-revenu semble-t-il revenir vers ses plus hauts niveaux historiques en Europe? Et pourquoi ce niveau serait-il structurellement plus élevé qu'en Amérique? Quelle force magique implique que la valeur du capital représente 6 ou 7 années de revenu national dans une société donnée plutôt que 3 ou 4? Existe-t-il un niveau d'équilibre pour le rapport capital-revenu? Comment est-il déterminé? Quelles sont les conséquences pour le taux de rendement du capital? Et quelle est la relation avec le partage du revenu national entre revenu du travail et revenu du capital? Pour répondre à ces questions, nous allons commencer par présenter la loi dynamique permettant de relier le rapport capital-revenu d'une économie à son taux d'épargne et à son taux de croissance. La deuxième loi fondamentale du capitalisme, bêta, égale S sur G. Dans le long terme, le rapport capital-revenu bêta est relié de façon simple et transparente au taux d'épargne S du pays considéré et au taux de croissance G de son revenu national à travers la formule suivante. Bêta égale S sur G. Autrement dit, le capital-revenu égale le taux d'épargne divisé par le taux de croissance du revenu national. Le taux d'épargne S représente l'épargne véritablement nouvelle, donc nette, de la dépréciation du capital, divisé par le revenu national. Par exemple, si S égale 12% et G égale 2%, alors bêta égale S sur G égale 600%. Autrement dit, si un pays épargne chaque année 12% de son revenu national et si le taux de croissance de son revenu national est de 2% par an, alors dans le long terme, le rapport capital-revenu sera égal à 600%. Le pays en question aura accumulé l'équivalent de 6 années de revenu national en capital. Cette formule, qui peut être considérée comme la deuxième loi fondamentale du capitalisme, traduit une réalité évidente, mais importante. Un pays qui épargne beaucoup et qui croît lentement accumule dans le long terme un énorme stock de capital, ce qui en retour peut avoir des conséquences considérables sur la structure sociale et la répartition des richesses dans le pays en question. Disons-le autrement, dans une société en quasi-stagnation, les patrimoines issus du passé prennent naturellement une importance démesurée. Le retour du rapport capital-revenu à un niveau structurellement élevé au XXIe siècle, proche de ceux observés au XVIIIe et XIXe siècle, s'explique donc naturellement par le retour à un régime de croissance faible. C'est la baisse de la croissance, notamment démographique, qui conduit au retour du capital. Le point fondamental est que de petites variations dans le taux de croissance peuvent avoir des effets très importants sur le rapport capital-revenu à long terme. Par exemple, pour un même taux d'épargne de 12%, si le taux de croissance tombe à 1,5% par an au lieu de 2%, alors le rapport capital-revenu de long terme, bêta égale S sur G, monte à 8 années de revenu national au lieu de 6 années. Si le taux de croissance chute à 1% par an, alors le rapport bêta égale S sur G passe à 12 années, soit une société deux fois plus intensive en capital qu'avec un taux de croissance de 2%. D'un côté, c'est une bonne nouvelle. Le capital est potentiellement utile pour tout le monde, et pour peu que l'on s'organise correctement, chacun pourrait en bénéficier. Mais de l'autre, cela signifie que les détenteurs du capital, pour une répartition donnée, contrôlent de fait une part plus importante des richesses, mesurées par exemple en années de revenus moyens du travail. Dans tous les cas, les répercussions économiques, sociales et politiques d'une telle transformation sont considérables. Inversement, si la croissance monte à 3%, alors bêta égale S sur G tombe à seulement 4 années de revenu national. Si dans le même temps le taux d'épargne baisse légèrement à S égale 9%, alors le rapport capital-revenu à long terme chute à 3 années. Ces effets sont d'autant plus significatifs que le taux de croissance à prendre en compte dans la loi bêta égale S sur G est le taux global de croissance du revenu national, c'est-à-dire la somme du taux de croissance du revenu national par habitant et du taux de croissance de la population. Autrement dit, pour un même taux d'épargne de l'ordre de 10-12% et pour un même taux de croissance du revenu par habitant de l'ordre de 1,5-2% par an, on voit immédiatement comment des pays en quasi-stagnation démographique, et donc avec un taux de croissance global à peine supérieur à 1,5-2% par an, comme en Europe, peuvent se retrouver à accumuler entre 6 et 8 années de revenu national en stock de capital, alors que des pays connaissent une croissance démographique de l'ordre de 1% par an, et donc un taux de croissance totale de l'ordre de 2,5-3% par an, comme en Amérique, n'accumulent que 3 ou 4 années de revenus en capital. Et si les seconds ont en outre tendance à épargner un peu moins que les premiers, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer par le vieillissement moins rapide de leur population, alors ce mécanisme transparent se retrouve renforcé d'autant. Autrement dit, des pays connaissant des niveaux de développement et de croissance du revenu par habitant très comparables peuvent se retrouver avec des rapports capital-revenu très différents, simplement parce que leur croissance démographique n'est pas la même. Nous allons voir que cette loi permet effectivement de bien rendre compte de l'évolution historique du rapport capital-revenu. En particulier, elle permet d'expliquer pourquoi le rapport capital-revenu semble retourner aujourd'hui vers des niveaux très élevés après les chocs des années 1914-1945 et après la phase de croissance exceptionnellement rapide de la seconde moitié du XXe siècle. Elle permet aussi de comprendre pourquoi l'Europe tente à accumuler structurellement plus de capital que l'Amérique. Tout du moins tant que la croissance démographique restera supérieure outre-Atlantique, ce qui ne sera sans doute pas éternel. Mais avant cela, plusieurs points conceptuels et théoriques doivent être précisés. Une loi de long terme. Tout d'abord, il est important de préciser que la deuxième loi fondamentale du capitalisme, bêta égale S sur G, ne s'applique que si plusieurs hypothèses essentielles sont satisfaites. En premier lieu, il s'agit d'une loi asymptotique, c'est-à-dire valable uniquement dans le long terme. Si un pays épargne une proportion S de son revenu indéfiniment, et si le taux de croissance de son revenu national est égal à G de façon permanente, alors son rapport capital-revenu tend à se rapprocher de plus en plus de bêta égale S sur G, puis se stabilise à ce niveau. Mais cela ne se fera pas en un jour. Si un pays épargne une proportion S de son revenu pendant quelques années seulement, cela ne suffira pas pour atteindre un rapport capital-revenu égal à bêta égale S sur G. Par exemple, si l'on part d'un capital nul et si l'on épargne 12% du revenu national pendant un an, cela ne va évidemment pas permettre d'accumuler 6 années de revenus en capital. Avec un taux d'épargne de 12% par an et en partant d'un capital nul, il faut 50 années pour épargner l'équivalent de 6 années de revenus. Et encore, le rapport capital-revenu ne sera pas égal à 6, car le revenu national aura lui-même fortement progressé au bout d'un demi-siècle, sauf à supposer une croissance totalement nulle. Le premier principe à avoir présent à l'esprit est donc que l'accumulation de patrimoine prend du temps. Il faut plusieurs décennies pour que la loi bêta égale S sur G soit vérifiée. Cela permet de mieux comprendre pourquoi il a fallu tant de temps pour que s'estompent en Europe les chocs des années 1914-1945, et pourquoi il est si important d'adopter une perspective historique de très longue période pour étudier ces questions. Au niveau individuel, des fortunes se constituent parfois très vite, mais au niveau de pays considérés dans leur ensemble, les mouvements du rapport capital-revenu décrits par la loi bêta égale S sur G sont des mouvements longs. Il s'agit d'une différence essentielle avec la loi alpha égale R multiplié par bêta, que nous avons baptisée première loi fondamentale du capitalisme dans le premier chapitre. Selon cette loi, la part des revenus du capital dans le revenu national alpha est égale au taux de rendement moyen du capital R multiplié par le rapport capital-revenu bêta. Il est important de réaliser que la loi alpha égale R multiplié par bêta est en réalité une pure égalité comptable, valable en tout temps et en tout lieu, par construction. On peut d'ailleurs la voir comme une définition de la part du capital dans le revenu national, ou bien du taux de rendement moyen du capital, suivant ce qui est le plus facile à mesurer, plutôt que comme une loi. La loi bêta égale S sur G est au contraire le résultat d'un processus dynamique. Elle représente un état d'équilibre vers lequel tend une économie épargnant à taux S et croissant à taux G, mais cet état d'équilibre n'est en pratique jamais parfaitement atteint. En second lieu, la loi bêta égale S sur G est valable uniquement si l'on se concentre sur les formes de capital accumulables par l'homme. Si les ressources naturelles pures, c'est-à-dire la part des ressources naturelles dont la valeur est indépendante de toute amélioration apportée par l'homme et de tout investissement réalisé dans le passé, représente une part significative du capital national, il est bien évident que le rapport bêta peut être élevé sans que la moindre épargne ait été apportée. Nous reviendrons plus loin sur l'ampleur que prend en pratique le capital non accumulable. Enfin, en dernier lieu, la loi bêta égale S sur G n'est valable que si le prix des actifs évolue en moyenne de la même façon que les prix à la consommation. Si le prix des biens immobiliers ou des actions augmente beaucoup plus fortement que les autres prix, le rapport bêta entre la valeur du marché du capital national et le flux annuel de revenus national peut là encore être élevé sans que la moindre épargne supplémentaire ait été apportée. Dans le court terme, ces variations du prix relatif des actifs, c'est-à-dire du prix des actifs relativement au prix à la consommation, qu'elles prennent la forme de plus-value ou de moins-value, sont souvent beaucoup plus importantes que les effets de volume, c'est-à-dire les effets liés à l'accumulation d'épargne nouvelle. Mais dans l'hypothèse où les variations de prix se compensent dans le long terme, alors la loi bêta égale S sur G est nécessairement valable sur longue période, et ce, quelles que soient les raisons pour lesquelles le pays considéré choisit d'épargner une proportion S de son revenu national. Insistons sur ce point. La loi bêta égale S sur G est totalement indépendante des raisons qui font que les habitants d'un pays donné, et parfois leur gouvernement, accumulent des patrimoines. En pratique, on accumule du capital pour toutes sortes de raisons, par exemple pour accroître sa consommation future, ou pour éviter qu'elle ne diminue, notamment lors du passage à la retraite, ou bien pour préserver ou constituer un patrimoine pour la génération suivante, ou bien encore pour acquérir le pouvoir, la sécurité ou le prestige que confère souvent le patrimoine. En général, toutes ces motivations sont présentes en même temps, dans des proportions variables selon les individus, les pays et les époques. Très souvent, elles sont même présentes au sein de chaque individu, et les personnes concernées elles-mêmes ne savent pas toujours les démêler de façon parfaitement claire. Nous reviendrons, dans la troisième partie, sur l'importance de ces différentes motivations et de ces mécanismes d'accumulation, et nous verrons que cette question a des conséquences considérables pour l'inégalité de la répartition des patrimoines, le rôle de l'héritage dans la structure de ces inégalités et plus généralement la justification sociale, morale et politique des disparités de patrimoine. À ce stade, nous cherchons seulement à comprendre la dynamique du rapport capital-revenu, question qui, dans une certaine mesure et dans un premier temps, peut être étudiée indépendamment de celle de la répartition du capital. Et le point sur lequel nous souhaitons insister est que la loi bêta égale S sur G s'applique dans tous les cas de figure, quelles que soient les origines exactes du taux d'épargne du pays considéré. Cela vient simplement du fait que le rapport bêta égale S sur G est le seul rapport capital-revenu qui soit stable dans un pays épargnant chaque année une fraction S de ses revenus et dont le revenu national croît au taux G. Le raisonnement est élémentaire. Illustrons-le par un exemple. Concrètement, si un pays épargne chaque année 12% de ses revenus, et si le stock de capital initial est égal à 6 années de revenus, alors le stock de capital va croître de 2% par an, c'est-à-dire exactement au même rythme que le revenu national, d'où un rapport capital-revenu stable. En revanche, si le stock de capital est inférieur à 6 années de revenus, une épargne égale à 12% du revenu va conduire le stock de capital à croître de plus de 2% par an, donc plus vite que le revenu, si bien que le rapport capital-revenu va augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau d'équilibre. Inversement, si le stock de capital est supérieur à 6 années de revenus, un taux d'épargne de 12% implique que le capital croît à moins de 2% par an, si bien que le rapport capital-revenu ne peut être maintenu à ce niveau et se met à diminuer en direction de son point d'équilibre. Dans tous les cas, le rapport capital-revenu se dirige dans le long terme vers le niveau d'équilibre bêta égale S sur G, éventuellement augmenté des ressources naturelles pures, à condition toutefois que les prix des actifs évoluent en moyenne comme les prix à la consommation sur longue période. Pour résumer, la loi bêta égale S sur G n'explique pas les chocs de court terme subis par le rapport capital-revenu, pas plus qu'elle n'explique l'existence des guerres mondiales ou la crise de 1929, événements qui peuvent être considérés comme des chocs d'une ampleur extrême. Mais elle permet de comprendre vers quel niveau d'équilibre potentiel le rapport capital-revenu tend à se diriger dans le long terme, par-delà les chocs et les crises.